Donc Francis Rocard, je suis astrophysicien spécialiste en planétologie au Centre national d'études spatiales et donc en charge des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Mon parcours, c'est d'avoir passé à l'époque une thèse de troisième cycle et une thèse d'État en astrophysique à Orsay avant de rentrer au CNES.
Lorsque l'on parle des petits corps du système solaire, de quoi s'agit-il exactement?
Alors, les petits corps du système solaire sont des petits objets, comme son nom l'indique, qui peuplent le système solaire. Il y a deux grandes familles bien connues, qui est ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. 80-90% des petits corps sont situés entre Mars et Jupiter. Et il y a une deuxième ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune. Et aujourd'hui, on a recensé par des moyens télescopiques, souvent au sol, environ 800 000 petits corps, dont l'immense majorité sont des astéroïdes. Sachant que il n'y a que 4 000 comètes, par exemple, qui est recensé dans cette population de 800 000, et tout le reste sont des astéroïdes. Et donc, une fois, sur les 800 000, il y en a peut-être les 4 cinquièmes ou 90% qui sont entre Mars et Jupiter. Alors, ils sont petits par la taille, et en fait, ce sont des reliques de planètes avortées. C'est-à-dire que Jupiter a empêché que entre Mars et Jupiter, ces petits corps s'agglomèrent en une planète unique. Et donc, ces perturbations gravitationnelles provoquées par Jupiter font que les petits corps, dont les plus gros sont Vesta ou Cérès, qui atteignent péniblement 1 000 km de diamètre, mais l'immense majorité sont inférieurs à 1 km en taille, et d'ailleurs, l'immense majorité ne sont même pas repérés encore aujourd'hui.
Nous vivons incontestablement une formidable époque concernant notamment l'approche des petits corps du système solaire, comme les comètes, les astéroïdes. Pouvez-vous nous présenter deux projets récents réalisés dont le CNES a participé, avec leurs résultats, bien entendu, qui nous ont été apportés? Alors, mais aussi préciser les raisons de notre investissement et les moyens technologiques déployés sur ces petits objets du système solaire. En somme, que nous révèlent-ils?
Alors, les petits corps du système solaire, comme ils sont petits, il y a une loi de physique qui dit qu'un petit corps inférieur à 400-500 km de diamètre ne se différencie pas. C'est-à-dire que l'intérieur ne passe pas en phase fluide avec formation d'un noyau, d'une croûte et d'un manteau. Et donc l'intérêt des petits corps, c'est qu'ils ont très peu ou même pas évolué depuis la formation du système solaire. C'est-à-dire il y a 4,56 milliards d'années. Donc, en étudiant ces petits corps, en tous les cas certains petits corps plus primitifs que d'autres, les comètes font partie des objets très primitifs, on étudie les objets qui peuplaient le système solaire pendant que les planètes se formaient, mais ces objets sont restés là pendant plus de 4 milliards d'années. Alors, il y a deux sujets, enfin, deux projets, pardon, phares, dont l'un s'est achevé il n'y a pas longtemps, qui est Rosetta Philae. Avec l'atterrissage de Philae en novembre 2014 et l'exploration de la comète Churyumov-Gerasimenko par Rosetta depuis l'été 2014 jusqu'à septembre 2016, date à laquelle la sonde s'est posée en beauté pour une fin de mission. Les résultats de Rosetta sont tout à fait considérables. On a une population de molécules identifiées qui est extrêmement importante. On a mesuré des rapports isotopiques très particuliers qui nous disent par exemple que 20% de l'atmosphère de la Terre vient des comètes. J'ai pas parlé d'eau, j'ai parlé d'atmosphère,
Oui,
c'est pas tout à
c'est
fait la
ce que
même
j'allais
chose.
poser comme question, c'est était-ce des molécules organiques ou inorganiques?
En l'occurrence, il s'agit de rapports isotopiques des gaz rares.
Ouais.
Donc c'est très particulier comme résultat. Concernant l'eau, c'est un peu plus compliqué qu'on pensait, puisque le rapport deutérium sur hydrogène, mesuré très précisément par l'instrument Rosina de Rosetta, indique que ce n'est pas la même eau que celle de la Terre. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'on ne pensait. Et en tous les cas, ce qu'on peut affirmer sans se tromper, c'est que ce n'est pas l'eau de la comète Churyumov-Gerasimenko qui est venue alimenter la Terre. C'est une eau un peu différente. Et le sujet devient un peu complexe pour connaître l'origine en résumé, l'origine de l'eau de la Terre provient plus probablement des astéroïdes qui sont plus nombreux que les comètes, même si l'eau des comètes ont probablement eu un apport également. Difficile d'être plus précis à l'heure actuelle. Avec Rosetta, on a compris la machine, le fonctionnement de la machine cométaire, quelque chose qui n'était absolument pas connu. On comprend pourquoi il y a des éruptions sporadiques sur les comètes, qui était quelque chose d'extrêmement mystérieux. Vous savez, les comètes ont des bouffées comme si elles explosaient.
Pas prévisible,
Pas
c'est
prévisible du tout. Et en fait, c'est corrélé, en tous les cas pour beaucoup des éruptions, c'est corrélé à des avalanches ou à des effondrements de falaises, plutôt. C'est des effondrements de falaises on a pu corréler un effondrement de falaise sur la comète Churyumov avec une fantastique éruption qui a eu lieu.
pour avoir des ordres d'idées au niveau des dimensions, parce que la comète elle-même fait une dizaine,
Fait 4
17 km,
kilomètres.
4 km, d'accord. Donc les falaises, une hauteur de...
Un effondrement de falaise d'une hauteur de peut-être plusieurs dizaines de mètres,
Oui.
50 mètres, 80 mètres.
D'accord, très bien.
Typiquement, en fait, il y a des stratifications sur la comète, et ces stratifications font que je dirais, la partie supérieure et la partie verticale sont attaquées par le soleil, et ça fragilise le bord, et c'est ça qui provoque l'effondrement de la falaise. Et on a pu corréler que certaines éruptions un peu caractéristiques sont dues à des effondrements de falaises, par exemple, ce qui était totalement inconnu auparavant. Sur Philae, nous avons un superbe paysage unique, et qui sera unique pendant très longtemps, de ce qu'est la surface d'une comète, qui a été photographiée par Philae, plus d'autres résultats liés notamment à l'absence de champ magnétique. Par exemple, c'est une donnée qui était un point d'interrogation. Est-ce que les comètes sont magnétisées ou pas? Et en fait, la réponse est non. Et alors, en quoi c'est important? C'est que certains modèles de formation des petits corps imposaient la présence d'un champ magnétique qui favorise la formation de ces petits corps. En fait, ce modèle n'est pas confirmé par la mission Rosetta. L'étape suivante sera bien évidemment de retourner vers une autre comète et cette fois de faire un retour d'échantillon cométaire. Mais c'est beaucoup plus complexe à faire. Et donc, c'est malheureusement pas encore dans les cartons, ce n'est pas encore décidé, mais je ne serais pas surpris que dans les 10 ans qui viennent, une mission de retour d'échantillon cométaire soit décidée, peut-être aux États-Unis, peut-être en Europe, on verra. Autre mission qui est d'actualité en ce moment, c'est Hayabusa 2, 2 parce que c'est la deuxième mission de ce type, c'est une mission japonaise qui visite des petits astéroïdes proche de la Terre, enfin, qui passe pas trop loin de la Terre, et on est arrivé vers l'astéroïde Ryugu cet été, l'été 2018, et on a découvert un objet qui a une forme qui est un objet plutôt pointu au pôle et un petit peu renflé à l'équateur. Et c'est assez surprenant, c'est pas une sphère, ça c'est pas très surprenant. On sait que ces objets sont pas sphériques. Il fait à peu près 1 km de taille, Ryugu. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que Osiris Rex, qui en ce moment arrive à Bennu, qui est un objet 2 fois plus petit, si vous les superposez sur une image, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ils ont la même forme. Là, c'est extrêmement surprenant, donc c'est probablement pas un hasard. Donc, il y a probablement un mécanisme générique qui fait que ces objets ont tendance, en tournant sur eux-mêmes, à accumuler de la matière à l'équateur et à obtenir cette forme un peu de diamant tel que l'on a sur Bennu et Ryugu.
Au niveau de leur rotation, est-ce une rotation régulière ou c'est assez irrégulière? Parce que vous, en tant que scientifique, vous devez optimiser l'atterrissage au maximum, quoi. Et donc, ça devait être complexe étant donné la petite taille de cet objet.
Oui, alors il se trouve que Ryugu a une rotation parfaitement, c'est sur un axe parfaitement fixe, donc la rotation est très simple. Et donc la navigation et la trajectoire de descente de Mascotte, puisque Mascotte c'est une espèce de petite valise en taille, c'est une grosse boîte à chaussures, a été posée sur Ryugu le 3 octobre dernier. Et donc la mission a duré 17 heures, ce qui était prévu compte tenu de sa batterie. Et on n'a pas encore vraiment les résultats de cette mission, puisque les dépouillements sont en cours. On n'est que quelques semaines après la mission. Mais on a déjà quelque chose qui nous a beaucoup surpris, c'est que les images de Ryugu nous montrent que c'est extrêmement caillouteux. Il y a beaucoup de rochers, parfois un très très gros rocher qui fait 130 mètres, qui est situé au pôle nord, en fait qui est un pôle sud parce que l'image est inversée. Et il n'y a pratiquement pas de régolithe, qui est du sable extrêmement fin qu'on a trouvé sur Itokawa, qui était la cible de Yabusa 1, mais qu'on ne trouve absolument pas sur Ryugu. On verra pour Bennu prochainement. Mais c'est surprenant parce que les modèles prédisaient que ce régolithe devait se former de façon un peu universelle sur ce type d'objet. Eh bien, la réponse est que ce n'est pas le cas systématiquement.